Merci Laure, bonjour à tous. Vous avez fait le bon choix en étant ici pour cette première table ronde. Donc nous sommes ensemble pour 1h15, je vais souvent parler de temps, jusqu'à 10h45. On va effectivement parler de cloud et data dans les territoires. Et moi, je voudrais vous inviter d'ores et déjà à mettre votre portable sur silencieux et en profiter pour désactiver la géolocalisation. Je trouve que c'est une bonne liaison avec les data dont on va parler. Alors effectivement, on a parlé de réseaux partout, pour tous et pour longtemps. Comment on passe des réseaux partout, pour tous et pour longtemps à cloud et data dans les territoires? Eh bien, comme l'a dit la présidente, il y a une continuité entre les réseaux et le cloud. Ce sont tous les deux des infrastructures numériques et l'ARCEP est passée de la régulation déjà ancienne des réseaux à celle du cloud par les nouvelles compétences qui lui ont été données. Et puis, il y a aussi une continuité entre le cloud et la data, puisque la data est stockée et transformée dans le cloud. Et la data, elle a vraiment changé de statut. Avant, c'était la fibre qui était au centre et maintenant, c'est la data qui est au centre. En quelque sorte, la donnée est devenue un bien commun stratégique. Et l'ARCEP, comme ça va être développé après, s'est vu attribuer de nouvelles compétences de régulation sur, d'une part, cette infrastructure numérique, le cloud, ou pour parler français, l'informatique en nuage, et puis la gouvernance de ce bien commun stratégique, les données, dans la lignée de la stratégie européenne sur les données et des deux règlements européens. Alors, en quoi ça concerne les collectivités? Eh bien, il y a 10 ans, les données territoriales, elles étaient souvent éparses, cloisonnées, peu valorisées. Et on se rend compte aujourd'hui que structurer la donnée, l'ouvrir intelligemment, ça devient une condition sine qua non pour piloter des politiques efficaces, pour anticiper les transformations et même pour renforcer la transparence démocratique. Prenez l'exemple des données qui sont utilisées pour les budgets participatifs. Donc les collectivités ont pris conscience qu'elles sont en lien direct avec les producteurs de données, avec les usages. Et je cite Valérie Nouvelle, qui sera l'une de nos premières intervenantes. L'usager est trop souvent vu comme un consommateur de données, mais c'est aussi un formidable producteur de données sur l'environnement. Et vous donniez, Valérie, l'exemple des photos de plantes que l'utilisateur peut mettre dans le pot commun. On peut prendre aussi l'exemple de la mobilité. On le voit sur Waze ou Citymapper. On a des exemples aussi pour la mobilité de communication en temps réel des places de parking disponibles. Alors, quelle perspective pour la donnée dans les territoires? Quand on interroge les collectivités territoriales, quand on vous interroge, vous répondez avant tout que c'est la maîtrise des politiques publiques qui est l'axe principal, mais aussi l'anticipation des besoins et la mesure de l'impact de ces mêmes politiques publiques. Donc, bien sûr, on pense à la transition écologique avec les mesures de consommation d'énergie, de consommation d'eau, par exemple les télérelèves, mais c'est aussi l'anticipation de dépenses sociales, et je pense aux publics vulnérables comme ceux qui sont bénéficiaires du RSA ou les MNA. Ces dépenses sociales sont très importantes et très fluctuantes, et la donnée a son rôle à jouer pour anticiper. Et pour reprendre l'expression de Constance Nebula, qui ne va pas tarder à nous rejoindre, créer un véritable service public de la donnée dans le cadre réglementaire défini, bien sûr, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'abord une prise de conscience de ce que sont les données, les gérer, les valoriser, y compris avec des cartes comme OpenStreetMap, les agréger, les enrichir, les croiser avec d'autres acteurs. Et vous avez, par exemple, pour le transport scolaire, des exemples qui ont été des belles utilisations de la donnée pour aider à la décision. Autre axe, c'est bien sûr maîtriser les enjeux de la soutenabilité avec l'impact environnemental, des data centers, entre autres. C'est un sujet qu'on connaît bien à l'ARCEP. Les enjeux de la sécurité, de la gouvernance, aussi de la création de valeur, parce qu'il y a de nouveaux métiers tels que l'intermédiation de données, la présidente y faisait référence, le développement des usages, l'articulation avec l'État et la législation européenne. Ces enjeux, ils concernent aussi bien les collectivités que les citoyens, les entreprises à tous les échelons. Donc, au fond, ce qu'on va discuter dans cette première table ronde, c'est ça, c'est quel accompagnement on peut avoir pour accompagner, pour assurer le développement de ces données dans des conditions souhaitables. Et puis, quel levier on va avoir pour assurer la circulation des données, leur accessibilité et puis le développement des usages. Donc voilà ce qui sera l'objet de notre première table ronde. Donc comment va se passer l'heure qui nous reste ? Après la présentation d'Olivier Delclos, j'appellerai nos trois intervenants, Valérie Nouvelle, Constance Nebula et Gaëlle Serrandour, puisque Anne Le Hénanf, malheureusement, qui devait participer, est retenue en circonscription. On va les écouter jusqu'à 10h25 et après, le micro circulera, vous aurez la parole. Le but, c'est de terminer à 10h45 de façon à prolonger les échanges autour d'un café. Eh bien, il est temps maintenant que j'appelle Olivier Delclos, directeur Internet, données, presse, poste et utilisateur. Merci Olivier, à toi la parole.
Merci Mireille. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi en tant que directeur Internet, données, presse, poste et utilisateur de l'ARCEP de me tenir devant vous pour évoquer, en introduction de cette première table ronde, des sujets qui diffèrent un peu des thématiques habituelles des conférences Territoires Connectés. Ma participation ici est d'ailleurs une première. Depuis la création de l'ARCEP en 1997, le législateur a régulièrement étendu son champ de compétences. En complément des télécoms, ce fut le postal, la distribution de la presse, puis l'impact environnemental du numérique. En mai 2024, la loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, appelée SREN, y a ajouté l'économie de la donnée en confiant à l'ARCEP deux nouvelles missions sur le cloud et la donnée, dans la lignée de la stratégie européenne sur les données. Cette stratégie européenne pour les données, annoncée par la Commission européenne en 2020, vise à créer un marché unique des données qui garantira la compétitivité et la souveraineté de l'Europe en matière de données. Afin de concrétiser cette vision et ainsi favoriser l'émergence d'une économie de et par la donnée, la Commission a proposé deux initiatives législatives majeures. Tout d'abord, le règlement sur la gouvernance des données, en anglais Data Governance Act, que j'abrégerai en DGA, qui est entré en vigueur, en application, en septembre 2023. Puis le règlement sur les données, le fameux Data Act, qui est entré en application le 12 septembre dernier. Commençons par le DGA, qui vise à faciliter le partage de données entre et au sein de différents secteurs, tout en renforçant la confiance dans ces échanges. Ce texte européen crée en particulier un cadre légal pour une nouvelle catégorie d'acteurs appelés prestataires de services d'intermédiation de données, ou de manière plus abrégée, intermédiaires de données, voire PSID. Ces acteurs fonctionnent comme des tiers neutres, mettant en relation des détenteurs de données, des individus, des entreprises ou des collectivités, avec des utilisateurs de données, par exemple sous la forme de places de marché de données. En tant qu'autorité compétente pour la régulation de ces acteurs, plusieurs missions incombent à l'ARCEP. Recevoir les notifications des prestataires établis en France, attribuer à leur demande et après examen le label prestataire de services d'intermédiation de données reconnus dans l'Union et veiller au respect par l'ensemble de ceux-ci des obligations qui s'imposent à eux au titre du DGA. D'ailleurs, dans le cadre de ces nouvelles missions, l'ARCEP coopère étroitement avec la CNIL, qu'elle sollicite sur les questions liées à la protection des données à caractère personnel. Pour être plus concret, l'ARCEP a ouvert dès promulgation de la loi SREN les guichets de notification et de demande de labellisation des intermédiaires de données. À ce jour, sur les 23 acteurs notifiés en Europe, 9 sont établis en France. Ils interviennent dans des secteurs variés comme la santé, la logistique aéroportuaire, le tourisme, l'immobilier, le spatial, l'éducation. Vous avez de la chance, leur nombre me permet encore de tous vous les nommer aujourd'hui. Donc nous avons AgData Hub, FData Trust, Hub One Data Trust, MyTrust, Noto, Real Data for Real Estate, Space Data Marketplace, Temis X et Vision. Parmi eux, 2 ont demandé et obtenu le label. Tout d'abord MyTrust, dont le service permet à des individus de transmettre, avec leur consentement, certaines données à caractère personnel ou professionnel collectées directement auprès de sources fiables, organismes publics, opérateurs télécoms, fournisseurs d'énergie, banques, assurances, vers des organisations qui, par ailleurs, sont en relation directe avec ces personnes. Il peut s'agir, par exemple, de constituer un dossier de crédit bancaire ou de candidater pour un logement auprès d'une agence immobilière. L'autre, Hub One Data Trust, propose un service d'intermédiation de données à destination des entreprises utilisatrices et détentrices de données issues du secteur aéroportuaire. Je vais maintenant passer à la régulation des services cloud. Cette régulation vise à faciliter le changement de fournisseur de services cloud et le recours simultané à plusieurs fournisseurs, que l'on appelle le multi-cloud. Ce besoin de régulation tire son origine d'un diagnostic établi par plusieurs autorités de la concurrence, l'Ofcom et la CMA au Royaume-Uni, ACM aux Pays-Bas, la DLC en France. Ces autorités ont mis en évidence l'existence de barrières tarifaires et techniques sur ce marché qui limitent la liberté de choix de fournisseurs de cloud pour les utilisateurs de ces services. En réponse, le règlement européen sur les données, le fameux Data Act, a été élaboré afin de favoriser le libre choix de ces services et faciliter le changement de fournisseur de cloud. En anticipation de l'entrée en application de ce texte européen, deux missions principales ont été confiées à l'ARCEP. D'une part, une mission relative aux barrières tarifaires, plus particulièrement sur les frais susceptibles d'être facturés aux utilisateurs lors d'un changement de fournisseur ou d'un usage multicloud, et d'autre part, une mission relative aux barrières techniques au changement de fournisseur. Elle porte sur la définition d'un cadre technique d'interopérabilité, de portabilité, d'ouverture d'interface pour les services de cloud. Pour accomplir ces missions, l'ARCEP a, dans un premier temps, mené une concertation en rencontrant différents acteurs de la chaîne de valeur des services cloud et des entreprises utilisatrices de ces services. Puis, elle a publié fin 2024 une première consultation publique sur les orientations et les mesures qu'elle envisageait de prendre en application de la loi SREN. Pour quel résultat, me demanderez-vous ? Sur le volet technique, dans le cadre de la loi SREN, l'ARCEP va publier très prochainement une recommandation relative à l'interopérabilité et la portabilité des services cloud. Elle définit de bonnes pratiques de transparence, en se basant sur les codes de conduite élaborés par l'écosystème, de stabilité des API, via notamment un délai de préavis en cas de mise à jour sans rétrocompatibilité, et de description et de documentation des API grâce à l'adoption d'une spécification OpenAPI ou de spécifications équivalentes. Pour conclure, le règlement sur les données est entré en application le 12 septembre dernier. C'est lui désormais qui encadre les frais de transfert de données et les contrats cloud, notamment en matière de transparence. Il contient aussi des obligations de portabilité et d'interopérabilité des services cloud. Il donne à la Commission européenne la compétence pour rendre obligatoire l'utilisation de normes pour certains types de services. L'ARCEP restera ainsi mobilisé auprès de la Commission européenne et auprès des régulateurs européens afin de valoriser l'ensemble des travaux qu'elle a menés dans le cadre de la loi SREN. Merci.
Merci. Merci Olivier. On a fait un petit voyage dans les nuages, donc maintenant on peut revenir sur Terre. Je pense qu'on est un tout petit peu en avance. Je ne sais pas si Constance Nebula nous a rejoint. Je ne la vois pas. Est-ce qu'il y a une question éventuellement à ce stade ? Normalement, les questions, c'est après, mais juste après l'exposé d'Olivier, s'il n'y a pas de questions. Écoutez, je vais enchaîner sur la séquence suivante. Donc, je vais peut-être vous présenter les uns et les autres et après vous appeler à monter. Donc, nous allons avoir Valérie Nouvelle, qui est vice-présidente du département de la Manche en charge de la transition et l'adaptation au changement climatique et qui est présidente du groupe de travail numérique éducatif à Département de France et qui était co-rédactrice du rapport que vous connaissez sans doute, Territoires connectés et durables. Ce rapport a été rédigé avec l'aide de la DGE. Il a porté sur les actions concrètes à engager et a proposé des familles d'usages prioritaires pour accélérer le passage à l'échelle des territoires connectés et durables. On fera plusieurs fois référence à votre rapport. Gaël Sarandour est directeur des investissements infrastructures à la Caisse des dépôts et consignations, au groupe. Et puis donc Constance Nebula, qui a un petit problème de train, mais qui ne va pas tarder à arriver normalement. Elle est vice-présidente de la région Pays de Loire, elle est vice-présidente d'Angers-Loire Métropole, et elle est présidente d'Open Data France, qui connaît bien le sujet des data. Donc je vous invite, si vous voulez bien, Valérie et Gaëlle, et Constance, puisque Constance est là. On dirait qu'on l'a fait exprès. Je vous invite donc à me rejoindre sur scène tous les trois pour qu'on commence la première table ronde. Bonjour, ça va? Voilà, bah mettez-vous là, on est que, moi je vais me mettre ici, voilà. Oui, parce que les autres tables rondes auront bien 4 intervenants, mais on fait avec 3 intervenants. Merci beaucoup, le train s'est bien passé? Pas de retard, c'était prévu, mais vous voyez, c'est just in time, donc c'est absolument parfait. Donc, comme je le disais en introduction, on va passer à peu près un peu moins d'une heure, enfin pour finir à 10h25, et avec deux séquences. La première séquence, ça va être après la présentation qui a été faite par Olivier Delclos des nouvelles règles européennes et des nouveaux rôles de l'ARCEP dans ces règles européennes. Je vais vous demander à chacun comment on peut faire le lien entre l'Europe, si loin, si proche, mais qui en tout cas fixe le cadre, et puis les territoires, et d'un point de vue bien sûr de la gouvernance des données et du cloud. Donc c'est peut-être vers vous que je vais me tourner en premier, Valérie Nouvelle, puisque j'ai mentionné votre rapport hein, qui date de 2023 mais qui est toujours très actuel. Dans ce rapport, vous expliquiez vos propositions pour faire de la France un modèle du développement des usages et services numériques dans les collectivités territoriales. Et puis l'Association des départements de France, hein, dans laquelle vous êtes aussi, a lancé un projet qui s'appelle Département Data. Et l'objectif de ce projet, c'est d'engager les collectivités dans une gestion stratégique de la donnée au service du diagnostic, de l'aide à la décision, de la prédiction et de l'évaluation des politiques publiques, comme je l'ai mentionné en introduction. Donc moi, ce sur quoi j'aimerais vous entendre, c'est en fonction de ces expériences, quels sont les défis qui restent encore selon vous pour que les collectivités puissent utiliser leurs données et puis les données produites par leur territoire à leur plein potentiel qui, on le sait, est important.
Merci beaucoup, Mireille, de cette première question. Alors, c'est vrai que le rapport il est contemporain de la nouvelle compétence data de l'ARCEP, puisqu'il est sorti en 2023, l'ARCEP a commencé en 2024, c'était rappelé tout à l'heure. Et en fait, déjà, dans le rapport, il y avait deux recommandations fortes liées à la data. Alors, la data, elle est sous-tendue dans tout le rapport, mais il y avait deux points sur le fait de recommander de doter les territoires de jumeaux numériques co-construits entre l'État et les collectivités. Et on verra qu'en fait, le projet donc, des départements s'inscrit dans cette dynamique. Et puis, l'EDIC, dont on parlera tout à l'heure aussi. Donc ça, c'est un premier point extrêmement important. Et l'autre point, c'était effectivement, comme ça a été rappelé, de s'appuyer sur l'usager en tant que producteur de données et non pas seulement consommateur. Et c'est vrai que c'est un point sur lequel l'ARCEP est très attendu, parce qu'on a parlé de la CNIL qui est sur la protection des données, mais là c'est autre chose, c'est une contribution de chaque usager à la création de données, point que connaît bien Constance. Donc ces deux points phares, alors depuis 2 ans, que s'est-il passé ? Je l'ai toujours dit quand j'ai porté le rapport, la bonne idée de ce rapport, c'était d'avoir deux ministres, les ministres Barrot et Faure, qui ont travaillé ensemble pour faire le lien entre offre industrielle, collectivité, parce qu'en fait, la relation entre les deux est essentielle pour développer des usages numériques. Leur travail ensemble, je l'ai souvent souligné, parce qu'en fait, il a aussi donné une commande politique de travailler en interministériel. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, mon constat est le suivant, c'est qu'en fait, les territoires ont continué à travailler sur le développement de jumeaux numériques. On a un certain nombre aussi de structures qui travaillent sur ce jumeau. L'IGN travaille sur le jumeau numérique français. Des travaux extrêmement aussi intéressants dans le cadre du CNIJ, avec Bertrand Montubert, qui menait sa mission data en parallèle de mon rapport. Et puis, des actions au niveau de la DINUM. Mais vous voyez, je pourrais vous en lister comme ça un grand nombre. En fait, tout est morcelé. Et les gouvernements qui se sont succédés jusqu'alors ont aussi morcelé davantage, fragmenté la compétence numérique. Alors, en soi, c'est peut-être pas grave que le numérique soit réparti entre plusieurs ministres, mais c'est à un moment donné, il faut faire ce qu'avaient fait les ministres Barrot et Faure, c'est-à-dire travailler ensemble et donner une consigne pour travailler ensemble. Donc, force est de constater, quand on dialogue avec les collectivités et les industriels, qu'en fait, eh bien, ça n'avance pas, ça avance en silo, et on n'a pas, en fait, de gouvernance globale. Chaque fois que j'ai présenté mon rapport à chaque ministre dans ses missions, chacun y trouve un intérêt, effectivement, pour son précaré. Après, quand il faut travailler ensemble, il n'y a plus personne et ça n'avance pas. Et c'est quelque chose dont il faut qu'on sorte, parce qu'en fait, on voit bien que ça va à l'encontre de toute la dynamique qu'il y a sur la gestion des données, sur l'utilisation des données. Et vous l'avez rappelé dans l'introduction, c'est le socle de déploiement des usages numériques. L'ARCEP a été présent auprès des industriels et des collectivités pour déployer les réseaux. On savait que ce n'était pas une fin en soi, que derrière, le but, c'était de développer des usages. Donc ça, c'est le constat de 2 ans, mais je suis sûre que ça va progresser. Deuxième point, c'est le projet des départements. Donc les départements, donc vous savez que François Sauvadet m'a demandé de le représenter auprès de vous ce matin, c'est un sujet qui lui est cher. Et cette notion de développer des jumeaux numériques, de piloter les politiques publiques avec la donnée, c'est quelque chose qu'il a vraiment retenu et qu'il a souhaité développer avec les départements. Le projet donc département data, il est très simple. Dans les 100 départements, chacun, par exemple, développe des politiques sociales. Vous avez parlé du RSA, des MNA. Donc chacun a ses données dans les territoires. Et puis ces données, on les transmet à l'État, qui nous les redonne 2 ans plus tard. Et donc, on est parti de ce constat-là, où déjà, ça ne permettait pas au département de piloter les politiques publiques, dans un contexte en plus budgétaire très contraint. On avait un peu l'impression d'avancer, mais en regardant dans le rétroviseur. On ne regardait jamais la route. Donc, ce qu'ont souhaité les départements, c'est échanger déjà entre eux, rendre leurs données interopérables entre départements. Tout le monde avait ses données, mais il fallait travailler sur ce format. Et puis avoir ces échanges avec l'État pour, en fait, petit à petit, avoir une donnée beaucoup plus efficace, beaucoup plus fraîche, pour permettre de faire de la prospective et du pilotage, à la fois technique et financier, c'est extrêmement important, et non pas juste de l'évaluation de politiques passées. Donc ce projet département data, aujourd'hui, il a plusieurs cas d'usage sur le RSA, sur les DMTO, sur les mineurs non accompagnés. Et les cas d'usage sont définis par les présidents de département au sein de département de France par rapport à leurs besoins. Et ça, cet aspect de gouvernance, vous voyez, on le voit réapparaître. J'ai dit tout à l'heure qu'il manquait au niveau national. Il existe au niveau de département data et c'est ce qui fait la réussite du système. Et cette idée de gouvernance, elle ne vient pas de nulle part. On avait des départements précurseurs. Dans mon rapport, j'ai parlé de la Vendée. La Vendée, son jumeau numérique, c'est parti d'une gouvernance de collectivité au service des usagers. Donc c'est ça un petit peu qui nous rassemble aujourd'hui. Et vous parliez en fait de la labellisation, des structures d'intermédiation sur la donnée. Et effectivement, l'ARCEP s'assure qu'il y a communication des données, pérennité des API. Eh bien, en fait, on aimerait voir l'ARCEP entre les collectivités et l'État pour favoriser en fait ce mouvement de données et cette réciprocité qui est extrêmement importante pour les départements. Mais je pense que les régions et l'AMF pourraient dire la même chose que moi.
Oui, merci. Vous avez parlé interopérabilité, gouvernance, réciprocité. Ça va permettre de faire le lien avec vous, Constance Nebula, puisque, comme je l'ai dit, ce que vous voulez à Open Data France, que vous présidez, c'est porter la structuration d'un véritable service public de la donnée et renforcer l'accompagnement des collectivités dans l'utilisation et la valorisation de leurs données. Donc vous allez au-delà finalement du souhait d'ouverture des données publiques et puis vous mettez en avance l'importance des données dans la transformation des activités des collectivités pour, par exemple, entre autres politiques publiques, la transition écologique. Je sais que vous avez travaillé aussi sur l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle se nourrira de données de qualité. Donc, est-ce que vous pourriez, vous aussi, faire un point et nous parler des opportunités, des défis que vous identifiez pour renforcer les usages des données dans les territoires ?
Merci beaucoup, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et de pouvoir effectivement, comme Valérie, porter la voix des élus locaux, parce que c'est important de préciser qu'on est avant tout dans notre discours des élus. On n'est pas des techniciens, on est des experts dans nos domaines de délégation et de compétences, mais c'est important qu'on ait une saisie politique de ces sujets. Et rien que ça, le fait d'avoir des élus qui s'en saisissent, c'est déjà quelque chose de plutôt positif, même si, je vais y revenir, on a du chemin à faire. Donc effectivement, je suis présidente d'Open Data France, qui est une association qui est née en 2013 et qui, à l'origine, avait comme vocation de promouvoir, de favoriser, d'aider, de soutenir le simple, entre guillemets, sujet de l'ouverture des données. Et donc de pousser sur le critère, à l'origine de la transparence de la vie publique, de la transparence vis-à-vis de nos concitoyens, de l'ouverture des données par les collectivités. Il y a la loi pour une République numérique de 2016 qui arrive, qui oblige les collectivités de plus de 3500 habitants à ouvrir leurs données, ce qui pousse un coup d'accélérateur. Et puis, je vais faire exprès d'être un peu polémique, et puis ça s'arrête là. Pourquoi je dis ça ? Parce que obliger à ouvrir ces données, c'est bien. Savoir ce qu'on en fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, pour quel cas d'usage et pour quelle valeur ajoutée, c'est mieux. Je donne souvent un exemple qui est intéressant. On a l'ouverture des données, c'est mettre un tableau Excel en ligne. Ça, c'est considéré comme de l'open data. C'est-à-dire que vous avez mis des données en ligne. Donc vous cochez la case, check, je suis une collectivité qui répond à l'obligation légale. Est-ce que c'est intéressant ? Non. Mais est-ce que vous répondez à la loi ? Oui. Donc ce qui nous intéresse, c'est pas simplement la réglementation et le fait que ce soit obligatoire, au-delà du fait que, je vais vous le donner tout de suite ce chiffre parce qu'il est tout récent, seulement, on vient de sortir un nouvel observatoire. Vous allez voir le lien. On vient de sortir un nouvel observatoire cet été que je vous invite à consulter. Et je salue mon voisin d'à côté, parce que cet observatoire a été financé et soutenu par la Caisse des dépôts via la Banque des territoires, qui est l'observatoire Open Data des territoires, qui vient faire une photographie à l'instant T de où on en est en termes de maturité sur l'ouverture des données et de leur utilisation par les collectivités en France, collectivités, tout type de PCI, etc. On a 30%, on était à 16% avec le précédent observatoire, on est à 30% des collectivités territoriales et EPCI qui ont eu une démarche d'ouverture des données. Là, vous allez me dire, c'est pas si mal. Sauf que quand on creuse dans « ils ont coché la case de l'ouverture des données », on revient sur l'exemple que j'ai donné juste avant. Ça veut dire qu'il y a juste eu, à un moment T, le fait de mettre à disposition certaines données qui peut-être n'ont pas d'intérêt, peut-être ne sont pas qualitatives, ne sont pas traitées, n'ont pas été structurées, ne pourront même pas être réutilisées, mais check, c'est en ligne. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire que le temps de l'open data est quasiment révolu et que c'est le temps de la data qui nous intéresse. Pourquoi ? Parce que, comme vous avez évoqué le sujet de l'intelligence artificielle, qui, pour le coup, intéresse les collectivités et les élus, on ne va pas dire que l'open data, ça passionnait les collègues, hein, on ne va pas se mentir non plus. À part certains précurseurs, on est quand même assez peu nombreux sur ces sujets. D'ailleurs, voilà, avec Valérie, on se croise souvent. On est quand même toujours les mêmes sur nos tables rondes. Donc, quand vous dépassez le cadre de l'open data et que vous parlez d'intelligence artificielle, vous avez une possibilité là de convaincre des élus, des maires, des présidents de PCI, des présidents de région, des présidents de département, de s'intéresser à la data parce qu'il n'y a pas d'IA sans data. Et donc, quand vous êtes dans une dynamique où vous voulez monter un projet d'intelligence artificielle pour votre collectivité, nécessairement, vous allez devoir monter un projet data comme ce que fait Département de France, que je salue parce qu'on a une très bonne proportion des départements en France, déjà adhérents d'Open Data France, donc ça c'est plutôt chouette, et puis dans une démarche, pas simplement d'ouverture des données, mais de structuration de l'écosystème de données publiques, pour savoir demain comment on fait pour alimenter nos IA publiques qui, elles, ont nécessairement besoin d'avoir un minimum de critères de souveraineté, de durabilité, de frugalité, etc., etc., selon les politiques. Donc ça, c'est un petit peu le paysage à l'instant T. Moi, je défends le principe que ce sont des sujets éminemment politiques. Dans le baromètre, dans l'observatoire qu'on a publié, on a pu constater que 100% des régions se sont lancés dans une dynamique de politique data. On est à plus de 80% des départements, donc c'est vraiment, vraiment important. On a quasiment toutes les métropoles. Et après, c'est sur les EPCI et les, on va dire, les tailles plus intermédiaires où il y a encore du chemin à faire, même si je salue vraiment le travail de l'AMF. Je pense que Michel doit intervenir juste après sur ces sujets-là. Mais il y a une vraie collaboration entre les associations de collectivités aussi pour porter le sujet que la donnée, c'est politique. Si on veut une IA politique, la donnée, c'est politique, et les sujets qu'on est en train d'aborder ce matin sont éminemment politiques. Et encore plus à 6 mois des élections municipales, quand on a des élus qui vont devoir aller représenter leur bilan, qui vont devoir aller prouver par A plus B le bienfait d'une mesure, d'une application, et qu'ils doivent nécessairement pour ça s'appuyer sur une donnée existante, structurée, qui va pouvoir permettre d'avoir à la fois un outil d'aide à la décision pour des décisions futures, mais surtout un outil d'analyse sur ce que la collectivité mène comme travaux au quotidien. Et je terminerai en donnant l'exemple de l'argument budgétaire. On est quand même dans une période assez compliquée au niveau budgétaire. Là aussi, c'est un argument que je donne vis-à-vis des élus. Dans un contexte de tension budgétaire, avoir une maturité de gestion de la donnée, avoir un écosystème structuré, avoir des nouveaux métiers dans les collectivités avec un vrai pôle data, et d'avoir pris conscience de l'importance de ces sujets, c'est aussi être plus efficient en matière de données publiques, puisqu'on est sur un outil d'aide à la décision, d'un outil d'analyse, d'un outil stratégique, d'un outil de pilotage, qui demain, effectivement, ou même aujourd'hui, je dis ça parce qu'en tant que vice-présidente d'Angers Métropole, on a un jumeau numérique. Les jumeaux numériques, la base d'un jumeau numérique, c'est la donnée, et principalement la donnée géographique, mais pas que. Si vous n'avez pas de données, vous n'avez pas de jumeau numérique. Donc vous n'avez pas de pilotage du territoire. Donc vous n'avez pas d'informations sur les îlots de chaleur, les crues, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le message que je porte et que je pourrais dire en introduction sur le rôle d'Open Data France et modestement le mien et celui des élus engagés.
Merci beaucoup. Moi, je retiens des mots-clés de ce que vous venez de dire. Hein. C'est l'ouverture, mais pas que. La transparence, mais pas que. Vous avez parlé de structuration. Et puis, je n'ai pas utilisé le mot, mais j'utilise, c'est la redevabilité. La donnée permettant d'avoir une redevabilité, surtout en cette période d'élection et de bilan. Donc, effectivement, on voit bien les besoins. Et Gaël Serrandour, je vais vous passer la parole parce que si l'objectif est partagé, comment atteindre ces objectifs? Vous, à la Caisse des dépôts, vous apportez votre soutien à de nombreuses initiatives et infrastructures de partage de données et de gouvernance des données, les prestataires de services d'intermédiation des données dont on a parlé tout à l'heure, les plateformes dédiées à la gouvernance et la gestion des données, et puis au développement de briques technologiques, notamment dans le cloud. Donc comment vous envisagez les enjeux de partage des données de développement du cloud dans ce contexte réglementaire européen qui a été décrit? Et comment finalement votre action d'investisseur, elle peut servir les collectivités face aux enjeux qui ont été décrits?
Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors par rapport aux deux thématiques que vous m'invitez à traiter. Je commencerai d'abord pour faire une petite résonance par rapport à l'introduction des services de l'autorité, puisque en effet, c'est la première fois que dans un colloque territoire connecté du régulateur, on traite de sujets qui ne sont pas uniquement, on va dire, les infrastructures dures, mais où on va vers le prolongement finalement de ces infrastructures numériques, en parlant donc de data center, d'hébergement de données, de traitement de données, d'intermédiation de données, et ça prouve bien que c'est le mouvement naturel. Je me rappelle qu'il y a quelques années, on se disait bien que si on faisait le plan France très haut débit et qu'on voulait un New Deal mobile, ça n'était pas que pour regarder des séries sur un smartphone ou une télé, et qu'on voulait aller au-delà de ça. Et je crois qu'on est vraiment dans le cœur, et peut-être tout à l'heure, on reviendra sur des cas d'usage de collectivités, même si Constance, vous venez déjà d'évoquer certaines thématiques dont les collectivités sont emparées. Et donc, dans le propos de tout à l'heure, il y a quelque chose qui est pour moi extrêmement intéressant et qui fonde complètement la situation. Alors, il n'y a que deux législations qui ont été évoquées tout à l'heure, le DGA et le Data Act. j'oserais dire que malheureusement, on pourrait citer plein d'autres législations européennes qui viennent concourir ou définir le paysage, puisqu'on a aussi le DMA, on a le DSA. Et au-delà de ces réglementations un peu horizontales, il y a aussi des réglementations sectorielles, puisque même si c'est à échéance encore de l'année prochaine, mais l'IA Act, enfin, l'Intelligence Act, commence tout de même à produire ses effets par le cadre qu'il pose dès 2025. Et là, c'est plutôt dans une approche réglementation produit. En tout cas, toutes ces réglementations européennes qui sont traduites ou s'appliquent de facto à la France, eh ben, elles posent ce cadre d'évolution de la donnée et de la donnée dans les territoires, parce que finalement, c'est au plus près du terrain, c'est là qu'on pose des capteurs, c'est là qu'on remonte de la donnée, c'est là qu'on doit la traiter, c'est là qu'on doit l'hyperviser ou la surveiller, la traiter et la faire circuler. Donc finalement, de quelque chose qui pourrait paraître totalement éloigné de nos préoccupations quotidiennes, non, cette réglementation européenne et sa transposition française, c'est la vie de tous les jours et c'est ce qui nous permet sans doute de donner une dynamique, une impulsion et plus d'innovation dans ce domaine de la donnée. J'aime bien votre proposition, Constance, de dire qu'après l'open data, finalement, c'est la data qui compte. Et d'ailleurs, c'est la vague de l'intelligence artificielle qui vient bouleverser et donner une puissance encore plus grande à ce sujet de la data. Et puisque vous avez parlé de l'observatoire que l'on réalise chaque année, j'en profite pour inviter l'ensemble de l'assistance le 13 novembre prochain à la présentation des résultats de la prochaine édition Data Publica, où j'espère qu'après l'an 1 de l'IA et de la donnée en 2024, où les collectivités, elles étaient 50% à dire qu'elles s'étaient intéressées ou qu'elles avaient commencé à traiter le sujet de l'IA. Donc ça veut dire parfois, je me suis juste posé la question, c'est comme j'ai posé un fichier Excel et j'ai fait de l'open data, 50% ont dit je me suis intéressé à l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont fait énormément d'actions ou de programmes. En revanche, je suis certain que dans quelques semaines, quand on dévoilera les résultats du baromètre et de l'enquête qui a été réalisée cet été, on aura certainement une progression flagrante dans l'appropriation et les cas d'usage autour de l'IA et des données. Alors, par rapport à la Banque des Territoires et la Caisse des Dépôts, vous nous connaissez pour l'activité un peu historique d'accompagnement des infrastructures, que ce soit dans le mobile ou le très haut débit fixe. On a été investisseur pour permettre l'installation de quelques capacités d'hébergement de données, donc de data centers répartis sur le territoire. Et en fait, on essaie d'avoir aujourd'hui un accompagnement au long cours sur l'ensemble de la chaîne. On a comme ça un programme qu'on a lancé il y a 2 ans qui s'appelle le TechSprint, qui a vocation à dynamiser un écosystème, la chaîne de valeur de multiples acteurs, grandes entreprises, établissements de recherche, universités, pour monter des projets autour de la transition énergétique, autour de la data. Et la thématique que l'on a choisie pour 2025 et 2026, c'est le sujet de l'espace de données, d'un data space plutôt dans la partie bâtimentaire parce que c'est l'efficacité énergétique, c'est une moindre consommation énergétique, c'est mieux piloter son bâti, et ça ce sont des sujets que les collectivités ont de manière prégnante, tant sur les nouveaux projets de construction qu'évidemment sur les budgets de fonctionnement pour la consommation énergétique. On accompagne également un certain nombre de projets de collectivités, ce qui permet tout de même de dire qu'il y a bon nombre de collectivités qui sont précurseurs et qui se sont lancées autour de la data et de l'IA, et notamment le programme France 2030 sur territoire connecté et durable a permis de labelliser et de faire accélérer un certain nombre de projets. On a cité le cas de la Vendée tout à l'heure avec le cadran solaire et son jumeau numérique, c'est un exemple parmi d'autres, on pourra sans doute en citer d'autres tout à l'heure. Et jusqu'à l'autre bout de la chaîne, nous on est évidemment également investisseurs Et pour montrer aussi la justesse du propos des services de l'ARCEP en introduction, qui disait que tout ça, c'était un continuum et qu'on était vraiment dans la même thématique, indépendamment du sujet des nouvelles prérogatives de l'ARCEP, moi je dirais que la meilleure illustration qui montre que ce sujet de cette table ronde de ce matin, c'est vraiment un sujet du secteur, des collectivités et des industriels et des opérateurs qui concourent aussi à la couverture numérique du territoire, c'est que finalement, quand on a un certain nombre d'opérations, on a cité tout à l'heure Hub One Data Trust, qui est un des deux premiers prestataires de services d'intermédiation de données labellisés par l'ARCEP. Finalement, c'est une co-entreprise qu'on a créée avec Hub One, qui est un opérateur d'infrastructure connu pour son rôle en tant qu'opérateur d'infrastructure. Quand on crée Hexadone, qui est une co-entreprise entre Orange et la Banque des Territoires, c'est bien Orange qui est largement connu en tant qu'opérateur d'infrastructure. On vient sur ce sujet de l'hypervision, du traitement, de la circulation de données, ce qui prouve bien qu'on est bien dans le prolongement naturel du métier d'un opérateur. Et dernier exemple, et sans doute que c'est un sujet qu'on traitera également, lorsque l'on crée avec Bouygues Télécom, avec Dassault Systèmes et la filiale numérique de la Poste, NumSpot, qui a vocation à être une des offres de cloud souverain pour les territoires, les collectivités, les acteurs publics et les grandes entreprises, c'est bien aussi finalement un prolongement naturel de l'activité normale d'un opérateur comme Bouygues Télécom qui fait ce pari avec nous d'offrir au marché, aux collectivités et aux entreprises une offre de services supplémentaire en complément de son offre de connectivité qu'il a. Voilà donc pour cette première partie.
Merci beaucoup. Je retiens de ce que vous avez dit la nécessité de proximité. Hein. Vous avez parlé des capteurs dans les territoires. Et puis vous avez rapidement enchaîné sur la dynamisation et sur l'investissement, mais qui ne se fait pas tout seul, qui se fait à plusieurs. Donc je trouve ça très intéressant. Et dans la deuxième partie de cette table ronde, je voudrais vous inviter à vous exprimer les uns et les autres sur les initiatives locales et sur les perspectives. Donc Valérie Nouvelle, par exemple, on a parlé plusieurs fois de jumeaux numériques, mais vous pouvez peut-être développer un peu. Des collectivités ont structuré des outils et des projets stratégiques pour utiliser, pour partager, pour valoriser les données. Mais au niveau européen, on fait cet aller-retour entre les territoires et l'Europe. Il y a le projet DEDIC, donc Consortium pour une infrastructure numérique européenne, un EDIC sur les jumeaux numériques de territoire. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, alors en 2023, en fait, il y a eu un appel à la candidature pour que les pays européens participent en fait à cet EDIC, parce que l'EDIC, le but, c'est de capitaliser sur effectivement l'ensemble des initiatives qui ont permis la mise en place du jumeau numérique. Donc, c'est non seulement les recenser, mais leur permettre de dialoguer entre eux, notamment sur tous les sujets, Gaël Sémondour parlait tout à l'heure des bâtiments sur le changement climatique, donc toutes les dimensions du changement climatique, et notamment aussi la dimension de la gestion de crise, qui, on le voit bien aujourd'hui, dépasse sans arrêt nos frontières pour aller en fait très rapidement à une échelle européenne sur l'ensemble d'interventions. Pensez aux feux de forêt, aux inondations. On est appelé à coopérer sur ces impacts du changement climatique. Et voyez bien, quand je cite ces exemples, tout l'intérêt qu'on peut avoir d'avoir des jumeaux numériques donc dans les différents pays qui savent se parler, être interopérables et permettre comme ça ces interventions croisées. Aujourd'hui, il y a 14 pays membres de cet EDIC européen. La France en fait partie. Ça a été un rattrapage de dernière minute au moment où donc en fait, je travaillais sur le rapport. Le CEREMA s'est positionné pour en fait être l'opérateur français de cet EDIC. C'est la DGE qui avait repéré effectivement cet appel à candidature EDIC qui ne trouvait pas preneur à l'époque. Vous voyez, comme le disait Constance, la donnée n'intéressait personne. Et donc, ce positionnement fait qu'aujourd'hui, la France est bien présente dans cet EDIC. Et le but, c'est d'avoir une boîte à outils qui permette de mettre à disposition de l'ensemble des pays membres tout ce qu'il faut pour faire des jumeaux numériques interopérables. Et ce n'est pas une boîte à outils qui part, vous voyez, de l'Europe et qui redescend sur les territoires, puisque justement, elle part de toutes ces expériences qu'a citées Gaëlle Sébondour tout à l'heure, et elle s'appuie dessus pour ensuite définir effectivement des standards d'interopérabilité et pouvoir ainsi progresser. Alors, on parle de souveraineté, d'interopérabilité. Désolée d'enfoncer le clou, mais au niveau français, on n'a aucune direction qui est donnée ni aux collectivités ni aux industriels. Donc ça, c'est un manque actuellement et qu'il va nous falloir absolument rattraper dans le cadre de cette édique, parce que la France a de nombreux atouts. On parlait tout à l'heure des expériences de jumeaux numériques existantes et puis, Mireille, le positionnement de l'ARCEP. Enfin, on sait qu'on a la chance d'avoir un régulateur qui est très bien placé, qui a une belle place au niveau européen dans la constellation de l'ensemble des régulateurs. Donc c'est vrai qu'on attend beaucoup, tant au niveau industriel que collectivité, du rôle de l'ARCEP pour justement arriver à progresser et à mettre en place cette édique. Donc l'édique, c'est quelque chose finalement de très concret. Je souligne que le Hub des territoires a accueilli en fait le CEREMA récemment pour justement donner cette dynamique de partage sur jumeaux numériques, le faire connaître, et l'ensemble des collectivités ici présentes et industrielles, il y a un questionnaire en ligne ouvert par le CEREMA actuellement pour faire remonter ce que vous attendez de l'édique, vos contributions. Donc n'hésitez pas à y répondre, et puis on est le 30 septembre. Et officiellement, les activités de l'EDIC commencent demain, donc 1er octobre, après la mise en place d'une gouvernance qui est effective aujourd'hui entre les 14 pays. Et d'ailleurs, il y a un appel à l'intégration d'autres pays européens. Donc, vous voyez, la structure est là. Et bien, on est sur le début de ces activités très concrètes.
Merci. Donc, à partir d'un standard d'interopérabilité, on entend bien votre appel à la souveraineté. Et puis, vous avez dit demain, donc demain, 1er octobre, mais un futur dans lequel la donnée et l'éthique joueront un rôle. Constance Nebula, donc, est-ce que vous pouvez nous parler des modèles de gouvernance partagée, puisqu'on voit bien que la gouvernance, c'est quelque chose d'important. Certaines collectivités sont avancées, certains services de l'État sont avancés. Des partenaires privés aussi, pourquoi pas. Vous avez dans la région Pays de Loire un comité local de la donnée. Est-ce que vous pouvez nous parler de ses objectifs et puis de ses réalisations ?
Merci. Je vais rebondir d'abord sur ce que vient de dire Valérie, sur le fait que moi aussi je porte le même message sur on a besoin de... Les élus, on demande rarement qu'on nous donne des consignes et qu'on nous donne des obligations supplémentaires. En revanche, quand on en réclame, ce serait bien de... du coup, d'y répondre, parce que ça fait des années qu'on plaide pour qu'on ait une uniformité, une stratégie, une gouvernance nationale en matière de données, en matière d'interopérabilité, en matière de standards, en matière de portage. Je sais qu'il y a plein d'initiatives qui se font dans plein de structures différentes, et que comme on est un peu à la tendance à rationaliser, ce qui pour moi est plutôt une bonne chose, ça permet aussi de se concentrer. Donc voilà, je passe le même message que Valérie, on est en attente. Mais je ne désespère pas. La question de la gouvernance des données, elle est essentielle, puisqu'à partir du moment où la donnée et les données sont une ressource utile, qui est produite et qui est concrète, qui existe et qui a vocation à être partagée, qui a vocation aussi à être sécurisée. Parce qu'on n'a pas encore parlé de cybersécurité, mais c'est essentiel. Plus on parle de cloud, et encore plus quand on parle de cloud, et même si ce n'est pas la question, je parlerai quand même un peu de cloud. Les données sont un sujet essentiel à protéger et à sécuriser, donc ça nécessite d'avoir une gouvernance. À défaut d'avoir une gouvernance nationale, les territoires ont des gouvernances locales. Je prends un exemple. À Angers en métropole, on a fait voter il y a maintenant presque 2 ans une stratégie métropolitaine de la donnée. Dans ce document, qui n'est pas juste une charte et un truc de com où on signe tous, on est d'accord, la donnée c'est super. On est bien sur une stratégie politique de la donnée. On en fait quoi ? On la traite comment ? Comment on travaille avec le privé ? Comment on la sécurise ? Demain, ça vient alimenter quel modèle d'intelligence artificielle ? La donnée, pourquoi faire ? Pour quels objectifs de la collectivité ? Pour quels objectifs de nos services publics ? quelle feuille de route on donne à nos agents, parce qu'on n'a pas parlé non plus de formation des agents, et notamment sur le fait qu'il y a des nouveaux métiers dans les collectivités, le fait que la donnée aussi, elle doit être confidentielle, et donc on doit former à la confidentialité des données en interne et en externe. Bref, un document qui est à la fois politique et stratégique, et qui pose une gouvernance, qui pose, c'est une sorte de doctrine, en fait, tout simplement. C'est la doctrine de la collectivité en matière de données. Elle a été votée à l'unanimité des 29 communes de la métropole, et j'en suis ravie, ce qui va nous permettre aujourd'hui d'être dans une nouvelle étape, qui est le fait de voter une stratégie IA. Et on ne fait pas une stratégie IA si on n'a pas déjà posé une gouvernance des données. Donc on le fait dans cet ordre-là. Ce document de la stratégie des données d'ALM est disponible, bien entendu, aussi en accès libre si vous souhaitez le consulter. Et effectivement, autre exemple intéressant, parce que Angers, c'est la meilleure ville, mais les Pays de la Loire sont la meilleure région. Je suis d'une objectivité sans nom. On a voulu, à la suite effectivement des travaux du CNIJ, et je cite aussi un autre travail important qui va voir le jour prochainement, qui est la fabrique des données territoriales, et je salue Hakim qui en a la charge à cette occasion, puisque la semaine prochaine, on a une très grosse journée sur la donnée territoriale et aussi la réunion des partenaires autour de la fabrique de la donnée territoriale. Avec ces travaux-là, on s'est dit que ce serait pas mal d'avoir une gouvernance locale et régionale autour des données, mais pas uniquement les données de la collectivité, les données de tous les partenaires qui, eux, partagent avec la collectivité pour le service à nos habitants. Et donc, à la région Pays de la Loire, on a mis en place un comité ligérien de la donnée à l'échelle régionale, dans lequel j'invite tous les maires, tous les présidents d'agglomération, les présidents de département, dans lequel j'invite le SGAR, dans lequel j'invite l'ARS, dans lequel j'invite l'ANCT, dans lequel j'invite l'INSEE en région, dans lequel j'invite l'ADEME, dans lequel j'invite tous les partenaires publics et décentralisés des collectivités qui, elles, sont toutes génératrices et créatrices de données, pour qu'on ne soit plus chacun dans notre coin à avoir des problématiques où on n'est pas fichu, de partager, au-delà du partage technique, de partager de nos avancées respectives en matière d'ouverture des données et de traitement de la donnée, alors que quand on les partage, on peut créer du service. Ce service, il peut être créé facilement à partir du moment où on est en collaboration et en co-construction. Donc c'est l'objectif de ce comité ligérien de la donnée qui s'est réuni pour la première fois au début d'année et que je dois réunir une deuxième. On va faire une à deux réunions par an avec des thématiques, c'est eux qui choisissent. Là, la santé et les transports ont été indiqués comme des thématiques sur lesquelles on a besoin de partager. Et donc on va inviter les CHU, on va inviter les universités. Pour les transports, on va inviter bien entendu la SNCF, les délégataires, etc. Et ça n'existe pas ailleurs, mais ça paraît être du bon sens. Je ne dis pas que ça va changer le monde, je dis juste qu'au moins ça a le mérite d'exister et les gens qui sont autour de la table n'avaient jamais été tous autour de la table pour échanger sur ce sujet-là. Et je n'ai pas parlé de cloud, mais j'espère qu'il y aura des questions.
Oui, merci. C'est vrai que dans votre agglomération et votre région, vous avez fait un certain nombre de choses intéressantes. C'est bien d'avoir parlé de la sécurité, cybersécurité, qui est liée à la confidentialité et la formation à la confidentialité, mais pas que. Et puis, j'ai bien aimé aussi le fait que vous dites qu'il faut d'abord une stratégie de la donnée avant de faire une stratégie IA et ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et vous avez beaucoup parlé de partage aussi. Partage, mais sur des thématiques, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde autour de la table, mais sur des thématiques, je pense que ça doit être très profitable. Donc, je vous passe la parole maintenant, Gaëlle Sarandour. Peut-être vous pourriez nous parler de Hexadone et puis des financements, parce que notre audience ici, elle est convaincue, je pense, en disant il faut s'y mettre. Bon, certains s'y sont déjà beaucoup mis, mais avec quels moyens, avec quel financement, quel rôle peuvent jouer la Caisse des dépôts et la Banque des territoires ?
Alors, je vais me permettre, Mireille, comme Constance l'a fait, en rebondissant sur les propos de Valérie, je vais rebondir sur les propos de Constance pour dire combien je suis, et en représentant la Caisse des dépôts, totalement je plussois les propos de Constance Nebula, et notamment sur un point qui est de penser, de réfléchir, de s'organiser ensemble. Il y a quelques jours, on était en réunion avec des collectivités territoriales sur le sujet de la donnée, sur le sujet de la souveraineté, Et on me faisait la remarque en me disant, mais vous savez, le lundi, on me dit qu'il faut acheter, il faut surtout penser RSE. Le mardi, on me dit, ah oui, mais il faut, la souveraineté est un critère essentiel. Le mercredi, l'acheteur dit, ah ben non, son directeur, son DGS lui dit, on n'a plus d'argent, on n'a plus de crédit, donc il faut sursoir à la décision. Bon, et tout ça pour dire que finalement, c'est, d'une part, c'est très compliqué pour les services et parfois les collectivités pour penser, organiser, structurer. Mais la conclusion, c'est que finalement, de la même façon qu'on a fait des schémas d'aménagement numérique des territoires il y a 15 ans, de la même façon qu'on invite les territoires à penser des schémas de résilience qui dépassent le numérique, qui concernent aussi l'énergie et les transports, pour penser le renforcement et la sécurisation et pour que les territoires s'adaptent au changement climatique, ben finalement, ce mouvement, et ce que Constance Nebula vient de décrire, à la fois d'avoir un schéma de gouvernance de la donnée, d'organisation, et puis surtout de réfléchir et d'identifier après quelles sont les données que j'ai sur mon territoire, quelles sont celles dont je suis propriétaire, est-ce que certaines sont sensibles ou pas. Il y a un rapport sénatorial sur la commande publique qui vient de sortir tout récemment qui invite toutes les collectivités justement à faire en sorte que la commande publique soit un outil encore plus puissant en matière d'innovation autour de la donnée. Et parmi les recommandations, la première des recommandations, c'est que chaque collectivité ait cette réflexion sur la criticité, la sensibilité des données qu'elle manipule, puisque la conséquence pourra être éventuellement de décider de les héberger elle-même, de les confier dans une certaine mesure à des prestataires privés, mais peut-être labellisés. Et on a au moins en France une certification Secnum Cloud qui donne de la confiance pour ces offres de services. Voilà. Et donc, je trouve que c'est vraiment crucial d'avoir cette invitation à réfléchir ensemble et puis surtout se poser cette réflexion. Alors Mireille, par rapport à votre question, je ne suis absolument pas là pour faire une page de pub commerciale sur les investissements que réalise la Caisse des dépôts, mais peut-être juste vraiment illustrer des cas extrêmement concrets que l'on voit aujourd'hui, et sans qu'ils soient mieux que d'autres, parce que il y a un foisonnement d'initiatives sur le territoire. Donc ça n'est pas parce que je vais peut-être citer l'Orient ou la région Bourgogne-Franche-Comté que le projet de la Vendée ou d'Angers ne sont pas du même niveau. Mais bah, par exemple, dans le projet de Lorient, que je trouve assez intéressant à deux titres, c'est qu'il y a plusieurs cas d'usage qui sont gérés et pilotés par la collectivité. Un, et je pense que Valérie sera sensible en tant qu'élue de la Manche, sur le jumeau numérique des plages et les 120 km de côte qu'il y a dans le Morbihan, avec un travail où je recoupe à la fois des capteurs qui sont déployés. Je travaille sur ce jumeau numérique des plages pour travailler dans une approche prédictive sur le retrait de côte. Et ça, c'est aussi un sujet que vous avez dans la Manche, Valérie. Et de surcroît, cette approche, elle se fait avec l'Université de Bretagne Sud et une entreprise française qui s'appelle Wateco. Donc on a un écosystème aussi entre acteurs publics, acteurs privés qui travaillent à ce type de démarche. Et l'autre cas que l'on voit aussi fleurir un peu partout en France à Lorient, c'est la gestion des déchets, où en effet ils réalisent ce projet avec Hexadone en matière de supervision de données. Et vraiment, ce qu'il faut retenir dans ces approches là c'est que le sujet n'est pas d'avoir de capter la donnée, de la stocker et de la garder propriétaire. Non, la valeur, c'est parce qu'elle va circuler. La valeur, c'est parce qu'on va avoir des capteurs et qu'on va pouvoir, encore une fois, avoir une approche prédictive des zones qui sont mal desservies, des zones qui sont surchargées en matière de déchets, pour ajuster la politique publique et finalement le service rendu aux administrés. Et on voit bien, puisque les campagnes municipales ont été évoquées, tous ces services, ces cas d'usage, cette donnée qui est traitée, c'est autant d'éléments qui sont à la main des élus, évidemment, pour pouvoir, de manière très objective et rationnelle, expliquer l'amélioration du service rendu aux usagers grâce à ce type de service.
Oui, merci beaucoup pour ces exemples. On voit que entre le jumeau numérique des plages et le jumeau numérique des déchets, il y a vraiment des applications extrêmement variées. Mais vous avez insisté à nouveau sur la nécessité de réfléchir pour savoir où on va, et les usages en découlent finalement, même si les usages peuvent être inspirants pour la réflexion. Donc, merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant à la phase des questions de la salle. Alors, nous sommes éblouis. Et donc, je demande à ceux qui font passer les micros de lever le bras, parce que sinon, on ne voit pas vos questions. Ah, ça y est, ça s'éclaire un peu. Tout s'éclaire sur le cloud et la data. Donc, allez-y, c'est le moment. Nous avons encore quelques minutes avant le café. Et je suis sûre, vu la qualité des exposés, que vous avez envie de creuser tel ou tel sujet. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de données, mais sur le cloud, je pense qu'il peut y avoir des questions. L'ARCEP, comme l'a dit Olivier Delleclos, régule certains aspects du cloud. On a parlé ici de Secnum Cloud et de souveraineté. Et donc, je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas des questions sur le cloud. Mais Constance, si vous voulez, je vous repasse la parole. Vous allez faire la question et la réponse.
Il ne faut jamais donner un micro à un élu, parce qu'en fait, on le garde. Surtout quand on a un chrono devant et qu'on voit qu'on a encore du temps. Si ça vous embête pas, j'ai quelques mots sur le cloud, parce qu'effectivement, on est très focalisé sur les données. Mais les collectivités sont très engagées et très concernées par la question du cloud. Et les choix techniques, stratégiques, politiques qui s'ouvrent à nous. Et ce n'est pas réservé uniquement au DSI. C'est vraiment des enjeux assez stratégiques sur lesquels on a des vrais arbitrages. Donc peut-être simplement deux, trois explications et peut-être un ou deux exemples. Les collectivités, elles ont une démarche assez pragmatique là-dessus. Ça veut dire que là où on a une offre cloud, ou SaaS d'ailleurs, qui est pertinente, qui est la plus efficace, qui est la plus efficiente pour le service, elle est retenue. Et lorsque ce n'est pas le cas, on choisit une offre en propre, une solution à installer sur les infrastructures de la collectivité. Je crois vraiment que le modèle qui se répand le plus, et je ne sais pas s'il y a des offreurs de solutions dans la salle, c'est vraiment plutôt le modèle hybride. On cumule aujourd'hui plusieurs systèmes, on n'est pas 100% cloud ou 100%... ce serait dangereux de faire 100% cloud, je le dis, il faut de l'hybride. En région Pays de la Loire, je prends trois exemples avec trois systèmes différents. On a le portail des aides régionales qui est hébergé via une solution Secnum Cloud. On a l'outil de gestion des rapports, des délibérations qui, lui, est un service en SaaS. Et on a l'outil financier qui est hébergé en interne parce qu'on est sur des sujets un peu plus touchy. Donc ça veut dire qu'on peut cumuler les avantages et les inconvénients de toutes les solutions. Et pour ça, ce qui est bien, c'est pouvoir s'appuyer sur les opérateurs locaux. Et là, je parle une minute aussi de souveraineté locale. En région Pays de la Loire, on a un opérateur qui s'appelle Gigalis, qui, comme ça a été dit tout à l'heure, ne parle plus que d'infra en dur, mais parle aussi de soft, puisqu'on est passé du déploiement de la fibre, etc., au déploiement du cloud, et maintenant, on a même nos propres data centers. Et nous, on a un data center public avec des baies qui sont sous-louées à des partenaires publics qui permettent là aussi une certaine maîtrise. Donc la stratégie, c'est vraiment de bénéficier du meilleur des deux mondes avec la sécurité en critère numéro un. Moi, pour moi, ça reste un critère numéro un, puisqu'on est sur le cloud, on est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et la souveraineté des données en critère deux, et donc d'essayer ne pas être trop dogmatique sur le sujet et d'aller chercher à chaque fois le bon rapport qualité-prix, si j'ose dire, sans parler de prix, sur la sécurité et la souveraineté, même si on a une grosse difficulté pour les collectivités, c'est que plus on va aller en solution cloud et SaaS, plus ça pèse sur nos budgets de fonctionnement, puisque ce sont des points financiers, ce sont des montants qui pèsent sur nos budgets de fonctionnement, puisque ce sont des licences qu'on paye, ce sont des forfaits, et qui d'ailleurs augmentent avec les années sans nous demander notre avis, versus des solutions en propre qui, elles, sont sur les budgets de fonctionnement, où c'est plus facile de dégager des marges de manœuvre, contrairement aujourd'hui. Donc c'est peut-être le point un peu négatif, c'est le poids sur les frais de fonctionnement. Donc voilà quelques mots sur l'état d'esprit sur le cloud et sur nos infrastructures souveraines en région.
Moi, j'ai envie de rebondir à la fois sur ce que vous venez de dire et puis sur ce que disait Gaëlle Sarando tout à l'heure, mais bien sûr, vous êtes la bienvenue pour prendre la parole. Moi, il se trouve que dans ma carrière, j'ai fait pas mal d'achats et en particulier d'achats publics. Donc, je connais un peu la commande publique et finalement, beaucoup des clés se trouvent dans la façon dont on gère la commande publique. C'est un outil qui à la fois bride beaucoup, mais qui permet un certain nombre de choses. Sous réserve qu'on ait une stratégie qui soit clairement établie et qu'on sache ce qu'on veut mettre finalement. Ça passe par l'allotissement, ça passe par les critères qu'on met dans les consultations. Donc, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus les uns et les autres sur la stratégie cloud, achat cloud ?
Peut-être appuyer complètement le propos sur le multi-accès. Pour les collectivités territoriales. Aujourd'hui, dans les entreprises, dans le monde privé, si un DSI n'a pas viré sa QTI et est toujours avec l'ensemble de ses ressources internalisées et gérées en propre, il a perdu. Aujourd'hui, toutes les entreprises doivent absolument être dans l'agilité, dans l'efficacité, traiter parfois des jeux de données qui sont colossaux et donc on n'a pas forcément les ressources informatiques en interne qui étaient prévues. Donc aujourd'hui, un DSI, il n'a pas le choix, s'il ne veut pas mettre à risque l'innovation dans son entreprise, il doit être dans le multi-accès, le multi-plateforme, à la fois continuer à avoir des hébergements et puis faire appel à des fournisseurs de services externes. Et je crois que c'est exactement la même chose pour les collectivités, pour des considérations différentes et pour des services différents. Mais en tout cas, le multiplateforme, le multi-accès est quelque chose d'incontournable désormais. Et en effet, on croit ça avec l'analyse risque, coût, bénéfice sur les données. Sont-elles critiques ou pas ? Effectivement, est-ce que les horaires de l'accès aux bâtiments publics sont-ils si critiques pour devoir les garder chez soi ? Ou est-ce qu'il n'y a pas un fournisseur local qui a une offre en mode as a service qui est très pertinente et en plus on fait travailler un acteur local, ben voilà. Et je crois que c'est vraiment le maître mot finalement qu'il faut retenir. Et de surcroît, ça résonne parfaitement avec le Data Act présenté en termes de réglementation en introduction, parce que finalement le Data Act c'est le sujet de l'interopérabilité, de la réversibilité, faire en sorte qu'on puisse aussi transférer des données d'un prestataire à un autre. Voilà, donc je crois que si il y avait autour du cloud une idée maîtresse à conserver et à garder, c'est bien l'idée que on vit dans un monde désormais tous, acteurs publics, acteurs privés, où on doit avoir une approche multi-accès, multi-plateforme et répartir finalement ces données, ces traitements sur différentes ressources.
Et l'interopérabilité et les coûts de transfert vont dans le sens d'une meilleure agilité. Enfin, la maîtrise des coûts de transfert vont dans le sens d'une meilleure agilité. Valérie Nouvelle, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je voulais rebondir, en fait, Mireille, sur ce que vous disiez sur le code des marchés publics. Moi, je considère que le code des marchés publics est fantastique. Il suffit juste de savoir l'utiliser. Et sur ces questions-là, force est de constater qu'il faut souvent rappeler qu'on peut faire de la commande publique performantielle sur ces questions en fait de cloud, ce qui permet de poser la question à des prestataires justement de proposer des solutions hybrides, de les construire eux-mêmes par rapport à des objectifs que l'on a définis dans la commande publique, ce qui garantit derrière une meilleure interopérabilité. Donc ça, c'est une vraie question. Donc il y a ce point-là sur la commande performantielle qu'il faut vraiment privilégier dans ces démarches de mise en place de cloud. Et puis, il y a aussi le sourcing qui n'est pas assez utilisé par nos collectivités et qui permet effectivement d'avoir une discussion pour construire ces systèmes hybrides dont parlait Constance. Donc, on a un gros travail à faire au niveau collectivité pour mieux utiliser le code.
Il reste effectivement quelques minutes pour des questions, mais sinon, ça se fera autour du café. Je rebondis et pour peut-être conclure sur ce qui vient d'être dit. Moi, je crois vraiment que le sourcing et la connaissance de ce qui existe et ça passe aussi par une démystification. Oui, ces sujets sont parfois nouveaux, mais ils ne sont pas si compliqués que ça. Enfin, vous êtes des experts et des spécialistes et je recommande à chacun dans l'assistance de lire les travaux que vous avez produits. Mais la compétence, elle existe. En France, elle existe dans différentes associations, différentes instances, y compris de l'État. Et donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'emparer de ce sujet. On l'a dit, vous l'avez redit, c'est un sujet absolument central, stratégique pour les politiques publiques, pour les impulser, les évaluer. Ça touche effectivement à la relation avec le citoyen, ça touche au budget de fonctionnement, parce que si on est amené à faire appel à des fournisseurs, ça impacte bien sûr les budgets de fonctionnement, mais on ne va pas y couper. C'est un enjeu absolument majeur dans les années qui viennent. Je fais un dernier appel éventuellement pour des questions ou des commentaires. Et si je ne vois pas de main levée, sauf si vous avez un dernier mot à ajouter, mais je voulais vraiment vous remercier beaucoup au nom de l'ARCEP. Ça a été une table ronde extrêmement riche et je ne doute pas que durant le café, vous allez pouvoir répondre aux questions des uns et des autres. Merci encore pour cette table ronde. C'était vraiment très intéressant.